faire.
Et si 2025 ouvrait la voie à vos plus grands succès ? Excellente année 2025. Banque Atlantique vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il est 8h11 en temps universel. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans 30 minutes, vos réactions sur le rôle de la France au Cameroun pendant la colonisation et après l'indépendance, avec en toile de fond évidemment le rapport remis hier au président Paul Biya et présenté la semaine dernière au président Emmanuel Macron. Un rapport de plus de 1000 pages rédigé par une commission mixte de chercheurs français et camerounais qui durant 2 ans a travaillé sur la répression des mouvements indépendantistes camerounais entre 1945 et 1971. Et les auteurs confirment dans ce rapport que la France a bien mené une guerre contre les indépendantistes, marquée, je cite, par des violences extrêmes, des violences également exercées après l'indépendance en 1960 par les troupes camerounaises placées sous le commandement des officiers de l'armée française. Alors, quelle suite faudra-t-il désormais donner à ce travail des historiens ? Qu'attendez-vous de la France ? Qu'attendez-vous également du Cameroun ? On en parle ce matin. Vous nous appelez 33 9 693 693 70 et vos commentaires déjà nombreux sur nos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, j'en lirai évidemment quelques-uns pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Pour commencer, Rodolphe est avec nous, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auteurs de RFI au Bénin.
Merci de nous appeler d'Abomey, Calavi au Bénin, effectivement. Vous avez des questions sur l'engagement de l'armée sud-africaine en République démocratique du Congo aux côtés de l'armée congolaise pour lutter contre les rebelles du M23.
Oui, tout à fait. Voilà. Une dizaine de soldats sud-africains déployés dans l'est de la RDC sont morts dans l'offensive du M23. Alors, quelle est la nature de la présence sud-africaine en RDC ? Et quel est le rôle des soldats sur place ?
Oui, après la mort de ces soldats, des voix s'élèvent en Afrique du Sud pour exiger le retrait des troupes déployées dans l'est de la RDC. Bonjour Claire Bargelès.
Bonjour.
Correspondante de RFI à Johannesburg, de quelle façon l'Afrique du Sud s'est-elle engagée en RDC et quelles sont concrètement ses missions ?
Alors l'Afrique du Sud est militairement présente en RDC sous deux bannières. D'une part, elle participe à la MONUSCO, la mission des Nations Unies qui, avec ses forces de maintien de la paix, tente de stabiliser le pays, mais devrait progressivement se retirer. Selon les derniers chiffres de l'ONU, l'Afrique du Sud est parmi les principaux contributeurs de cette mission en termes de personnel militaire, avec un peu plus de 1000 soldats. Et puis d'autre part, elle fournit aussi le plus gros contingent de soldats à la force de la SADC, la Communauté de Développement d'Afrique Australe, communauté dont font partie Pretoria et Kinshasa. À la grande satisfaction du gouvernement congolais, cette force déployée depuis plus d'un an a pris le relais sur celle de la communauté d'Afrique de l'Est, communauté dont le Rwanda fait partie, et elle doit aussi, dans un avenir plus ou moins proche, remplacer la MONUSCO. C'est un haut gradé sud-africain qui est à la tête de cette mission, qui porte le nom de Sami DRC, et à terme, 2900 soldats d'Afrique du Sud devraient être déployés, ce qui représenterait près de 60% de l'effectif promis, aux côtés de la Tanzanie et du Malawi, mais pour l'instant, seule une fraction de ce contingent est présent sur place.
En tout cas, l'Afrique du Sud paye déjà pour son engagement puisqu'elle compte des pertes humaines. Hein. Rodolphe parlait d'une dizaine de morts. L'Afrique du Sud déplore déjà 13 morts sur le terrain congolais.
Tout à fait, 13 morts depuis vendredi et l'offensive du M23 sur Goma. Et ces pertes sont dues à la fois au sein de ces troupes engagées du côté de la MONUSCO et du côté de celle de la SADC. Et puis des pertes avaient déjà été déplorées l'année dernière, au moins 7 selon les différents communiqués de l'armée sud-africaine.
Ce qui alimente d'ailleurs, Claire Bargelès, je le disais tout à l'heure en préambule, les critiques en Afrique du Sud, des critiques qui ne cessent d'enfler dans le pays face à cet engagement.
Oui, l'Alliance démocratique, la deuxième force politique du pays et qui fait partie du gouvernement de coalition, dénonce l'envoi de soldats sud-africains vers leur mort et demande à ce que la ministre de la Défense vienne s'exprimer devant le Parlement pour déterminer si ces troupes sont suffisamment équipées. Car en fait, c'est la principale critique qui est faite à l'ANC, c'est d'avoir une armée sous-financée et de vouloir s'engager au-delà de ses moyens avec des hélicoptères en maintenance ou un manque de munitions sur place, alors qu'en face, les soldats ont affaire à un M23 pour sa part bien équipé et soutenu par la puissance rwandaise sur un terrain déjà si complexe et où de précédentes missions ont déjà échoué. Alors d'autres partis d'opposition comme l'IFF ou le MK se sont joints au concert de critiques, tout comme le syndicat des militaires.
Ouais. Claire Bargelès, reste avec nous. Rodolphe a une dernière question à vous poser. On vous écoute.
Ouais, Juan. Ces événements ont relancé le débat sur le déploiement sud-africain en RDC. Voilà, ces pressions pourraient-elles forcer le gouvernement à supprimer toute présence à l'est de la RDC ?
Est-ce que le gouvernement pourrait rappeler le contingent déployé en RDC ? C'est un scénario possible, Claire Bargelès.
Pour l'instant, la mission de la SADC a été prolongée jusqu'à la fin de cette année. Et puis pour le gouvernement sud-africain, qui n'hésite pas à condamner directement le Rwanda, ces opérations représentent un devoir de solidarité envers un autre pays de la SADC et aussi une responsabilité de maintien de la paix sur le continent. Mais en effet, la question des répercussions en termes d'image en Afrique du Sud se pose, alors que l'ANC est en perte de vitesse et peine vraiment à justifier la dépense de milliards de rand dans ces opérations, alors que ici, la situation domestique demande aussi son attention. Et puis des voix accusent également le pays de vouloir en fait préserver ses intérêts miniers en RDC. Donc la pression de l'opinion publique pourrait à terme peut-être jouer sur l'engagement de Pretoria, surtout si ses missions continuent de montrer très peu de résultats.
Voilà pour les explications de Claire Bargelès, correspondante de RFI à Johannesburg. Rodolphe, êtes-vous satisfait de nos explications ? Avez-vous tout compris ?
Très satisfait. Je vous remercie. Bah, salut tous les auditeurs de RFI à ce bonheur.
Bon, bah, merci infiniment. Bonne journée. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer tous ceux qui nous écoutent à Abomey, Calavi et aussi à Porto-Novo. C'est pas très loin, ou encore à Cotonou. Voilà les villes du sud du Bénin. Rodolphe, bonne journée. Merci Claire Bargelès. 9h17 à Paris. Franck Alexandre, spécialiste des questions défense à RFI, nous rejoint à l'instant même. Bonjour Franck.
Bonjour Juan.
Bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. On a des questions qui concernent un projet annoncé par Donald Trump il y a quelques jours. Tosi Maliki, bonjour.
Oui, bonjour Juan Gomez, à tout le monde.
Il y a beaucoup de bruit où vous êtes en ce moment. Où êtes-vous ? Dans la rue ?
Ah oui, je suis dans la rue, évidemment.
Bon, alors évidemment, bon. Vous êtes au Cameroun, à Yaoundé. Quelle est votre question, Tosi Maliki ?
Ah, ok, d'accord, Juan Gomez. Donald Trump a signé un décret ordonnant la construction d'un bouclier anti-missile pour protéger le terrorisme.
Alors, attendez, vous savez quoi ? Votre voix se robotise, donc c'est impossible de vous comprendre correctement. Déplacez-vous un tout petit peu, on est en direct et c'est comme ça. Effectivement, Franck Alexandre, il y a eu ce décret signé par Donald Trump qui envisage donc de mettre un bouclier antimissile sur l'ensemble du territoire américain pour protéger évidemment les États-Unis. Et aussi Maliki veut savoir si c'est possible.
Bah oui, sur ce grand territoire qui a cette particularité et cette chance peut-être d'avoir un océan de chaque côté, donc ils ne sont pas directement en danger, mais néanmoins, on sait, Juan, que la Russie est en train de transmettre à la Corée du Nord des technologies de réentrée atmosphérique. Je vous explique. Les Nord-Coréens, vous savez, ont déjà la bombe atomique, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore réussi à maîtriser complètement le couple missiles intercontinentaux et tête nucléaire, et l'on pense que ça fait partie du deal Moscou-Pyongyang. La Russie, possiblement, est en train de transférer à la Corée du Nord ces technologies qui permettraient d'avoir les bombes atomiques qui retombent sur leur cible. Et donc là, sur le territoire américain qui est déjà à portée de missiles, donc Washington a besoin de valider l'efficacité et l'emploi de ces systèmes de défense.
Oui. Enfin, je me souviens que Ronald Reagan, en son temps, avait lui aussi voulu protéger les États-Unis avec un dôme. Cette fois, Donald Trump pourra y parvenir ?
Alors, oui, puisque les systèmes existent déjà, hein, il s'appelle le Patriot, il s'appelle le TAD, le Terminal High Altitude Area Defense, en français, le système de défense antimissile à haute altitude. Vous le savez, il est
conçu... Donc ça veut dire que les Américains disposent déjà dispositif.
Absolument, c'est des systèmes qui sont conçus pour détruire les missiles balistiques de portée moyenne ou intermédiaire. Ils sont déployés en Corée du Sud, l'Arabie Saoudite les a achetés pour se protéger de l'Iran. Donc voilà, peut-être que le bouclier antimissile souhaité par Donald Trump sera une coordination de tous ces moyens, en fait une réorganisation pour une plus grande complémentarité des différents types de missiles.
Alors on a retrouvé Tosi Maliki.
Oui, allô, Juan Gomez.
Il y a toujours autant de bruit à Yaoundé dans les rues camerounaises, hein. On vous écoute pour la dernière question.
Ah d'accord. Quels moyens sont nécessaires pour le déployer ?
Alors, les moyens nécessaires, vous les avez évoqués, Franck Alexandre.
Est-ce qu'ils peuvent s'appuyer sur la technologie israélienne?
Bah, notamment, puisque...
Bah oui, ce sont les seuls, aujourd'hui, qui possèdent un dôme de fer. Eh bien, en fait, oui, peut-être, d'inspiration, puisque les Américains, vous savez, ont finalement à peu près les mêmes besoins de protection. Alors, c'est pas forcément pour leur territoire directement, on a expliqué pourquoi, parce qu'ils sont loin, mais c'est probablement plus pour des unités qui sont déployées en Asie ou au Moyen-Orient, là où ces troupes peuvent se trouver à proximité d'acteurs étatiques ou non étatiques d'ailleurs, agressifs, qui pourraient utiliser des milliers de drones contre ces troupes américaines. Donc peut-être, voilà, s'inspirant-ils du dôme de fer, mais au niveau industriel, il ne faut pas se leurrer. Hein. Il n'y a pas de mystère, ce sera America First.
America First, donc on fabrique sur place et on privilégie le matériel américain.
Absolument.
Voilà, j'ai bien compris vos propos, Franck Alexandre.
Mais il y a quand même un avantage, on l'a pas dit, mais enfin, vous l'avez dit en filigrane avec Ronald Reagan. Pourquoi ce bouclier anti-missile? Parce que finalement, Juan, c'est toujours avec les vieilles recettes qui sont les meilleures. Hein. on se souvient de cette guerre des étoiles qui a épuisé la Russie. Eh bien là, ça pourrait être une façon également d'épuiser la Russie. Vous savez que la Russie qui a tiré un missile intercontinental, enfin intermédiaire, l'Oreshnik, non chargé de tête nucléaire sur l'Ukraine il y a quelques semaines, ça coûte 100 millions de dollars à peu près. Voilà, le tir. Bon, eh bien, pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas dépenser leur argent dans des armes conventionnelles. Et à ce petit jeu, les Américains ont un coup d'avance. Ils sont riches.
À suivre.
Bien plus riches que les Russes.
C'est vrai qu'il faudra beaucoup d'argent à Donald Trump pour officialiser donc ce dôme de fer. Merci beaucoup de vos explications, Franck Alexandre et Tossi Maliki. Bonne journée et bon courage dans les embouteillages de Yaoundé. Vos explications, Franck, sont à réécouter évidemment à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Si nous parlions d'intelligence artificielle avec ce fameux phénomène DeepSeek, vous en avez certainement entendu parler depuis 2-3 jours. Bonjour Herman.
Bonjour Juan.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Quelles sont vos questions?
Merci Juan. Effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a ce phénomène de DeepSeek qui semble faire fureur au niveau de l'intelligence artificielle. Et ce serait un produit qui a été conçu par les Chinois.
Oui.
Donc, à ce niveau, il me vient des questions. Celle de savoir, qu'est-ce qui pourrait justifier exactement la popularité de cette intelligence artificielle? Et concernant son déploiement, est-ce que au niveau des États-Unis, avec la politique observée par le président Donald Trump, est-ce que les Américains ne pourraient pas interdire cette IA sur leur marché afin de se protéger?
Ouais, bonne question que nous allons poser à Nicolas Miaille. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur et PDG de Prism Eval, une start-up française spécialisée dans l'évaluation et la sécurité de l'intelligence artificielle. Vous êtes expert de la gouvernance de l'IA. C'est vrai qu'en quelques jours, ce robot conversationnel chinois a fait l'effet d'une bombe. DeepSeek est d'ailleurs devenue l'application gratuite la plus téléchargée d'Apple Store, le magasin virtuel d'Apple. Comment expliquer cette popularité?
Déjà, c'est un robot conversationnel qui fonctionne bien. Déjà, il fonctionne. Et il fonctionne bien. Il donne des réponses dans un temps d'une rapidité tout à fait intéressante à tout un tas de questions, avec cette espèce de bon sens qui fait le succès des chatbots conversationnels suite à la révolution de ChatGPT. Donc déjà, il fonctionne bien et il est disponible. Ce n'est pas si facile de rendre un robot conversationnel disponible et de fournir le service à des millions de personnes, il faut quand même le dire. Donc on peut penser, on a fait croire que c'était une petite équipe chinoise qui faisait ça dans un garage, un petit peu comme un projet à côté. Non, il n'en est rien. Il s'agit d'une vraie vision industrielle, scientifique, qui se réalise et d'ailleurs qui vient de loin. DeepSeek, ce n'est pas un acteur nouveau de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas le premier modèle qui sort et nous, on les connaissait déjà. Par contre, là, il marque un coût important, un coût significatif, qui d'ailleurs a coûté probablement bien plus cher que l'investissement annoncé de 5 millions de dollars.
Oui, eux disent avoir dépensé 5 millions et demi de dollars pour développer ce modèle, alors que les géants américains, eux, ont investi des milliards et des milliards de dollars pour finalement obtenir le même résultat que cette start-up chinoise.
Alors, je pense qu'on peut avoir fort doute s'agissant de ce chiffre de 5 millions de dollars, tout simplement pour mobiliser la puissance de calcul. Il faut probablement beaucoup plus que ça. Il n'a pas douté qu'ils ont investi moins d'argent que les Américains, mais je pense pas d'un ordre de grandeur significatif par rapport aux Américains. C'est pour ça qu'on peut avoir pas mal de doutes. Un des grands problèmes d'ailleurs qui frappe la montée en puissance de l'industrie de l'intelligence artificielle, c'est évidemment le manque de transparence qui est piloté et qui est lié à la compétition féroce que se mènent les différents acteurs pour justement bluffer, faire bluffer et prendre l'avantage vis-à-vis des investisseurs.
Ouais, quand on voit le sort réservé à TikTok, je comprends la question d'Herman qui vous demande, Nicolas Miaille, si les États-Unis pourraient interdire justement DeepSeek pour protéger leur marché.
Oui, excellente question, Herman. Je pense qu'il faut tout à fait regarder cette révolution avec le prisme, justement, géostratégique et géopolitique. Et c'est important de se projeter dans la possibilité de voir l'administration Trump interdire ce type de service, même si ça ne pourrait pas se faire en deux minutes. Ça ne pourrait pas se faire en deux minutes parce qu'il faudrait une base légale, mais on peut tout à fait envisager, dans les années qui viennent, si la concurrence DeepSeek devient vraiment problématique à l'image de TikTok, pour des équivalent de fuite de données sur le territoire chinois, de compétition économique, qu'une base légale soit poussée, soit votée au Congrès, hein, le président Trump à la majorité. Ça va pas se faire en deux minutes, mais il faut pas l'exclure non plus, même si pour l'instant les différents acteurs, y compris le président Trump, y compris Sam Altman qui dirige OpenAI, ont accueilli ce nouvel acteur, ont cette nouvelle concurrence, parce que c'est pas un nouvel acteur, en la félicitant, en la remerciant de l'aiguillon que ça représente pour que les Américains continuent à innover en matière de services et de technologies.
Effectivement, Donald Trump a déclaré que DeepSeek était un avertissement pour les industriels américains. Donc il suit de très près l'évolution de cette application. Merci infiniment Nicolas Miaille d'avoir été avec nous, PDG de Prismeval, start-up française spécialisée dans l'évaluation et la sécurité de l'IA. Il nous reste près de 4 minutes, on a le temps de prendre une dernière question ce matin au standard de RFI. Bonjour Brahim.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes à N'Djamena et vous avez des questions sur la guerre au Soudan. On vous écoute.
Merci. Le général Al-Burhan a repris le contrôle de son quartier général à Khartoum qu'il avait dû céder aux paramilitaires des FSL. Comment les forces armées soudanaises sont-elles survenues à reprendre ces lieux?
Ouais, c'est une bonne question. D'ailleurs, les observateurs n'hésitent pas à parler d'un tournant dans cette guerre au Soudan. Bonjour Roland Marchal.
Bonjour.
Chercheur au CNRS, basé à Sciences Po Paris, spécialiste de l'Afrique de l'Est. C'est vrai que le général Al-Burhan avait dû fuir son quartier général il y a maintenant un an et demi. Il avait dû abandonner son QG au cœur de Khartoum aux militaires des FSR. Le voilà donc de retour. Comment a-t-il réussi à reconquérir ce lieu qui, disons-le quand même, reste symbolique?
Eh bien, c'est le résultat d'une offensive qui a commencé il y a pratiquement plus de deux mois maintenant, et qui effectivement a marqué un certain nombre de succès, d'abord en province, dans l'état de Sennar, dans l'état de Djezira, avec la reprise de la ville de Médani, et ensuite des quartiers de Khartoum, de Khartoum Nord, et enfin la libération de cette de ce poste hautement symbolique.
Donc ça veut dire, si je comprends bien, excusez-moi Roland Marchal, les hommes d'Al-Burhan, donc de l'armée régulière soudanaise, reprennent peu à peu le contrôle de Khartoum?
C'est là que la situation se complique, dans la mesure où l'armée soudanaise continue à subir, à avoir des difficultés, et donc ce sont des milices organisées par les islamistes, par des chefs tribaux de ces régions qui se sont mobilisés aux côtés des forces armées soudanaises, armées par celles-ci, entraînées par celles-ci, et qui ont mené la bataille. D'où, évidemment, deux questions. La première, c'est un certain nombre de violations de droits de l'homme, de personnes exécutées comme ça pour des raisons qui sont apparemment ethniques. Et puis la deuxième question, c'est dans quelle mesure ces milices qui aujourd'hui travaillent avec les forces armées, demain obéiront et par exemple se démilitariseront pour laisser l'armée comme seul organe militaire dans les zones tenues par le général Burhan.
Oui, elles voudront forcément, ces milices, leur part du gâteau, si vous me permettez l'expression, Roland Marchal. Merci infiniment de nous avoir éclairé sur un sujet complexe, à suivre évidemment sur nos réseaux sociaux et sur le site RFI.fr pour bien comprendre la situation, l'évolution de la guerre au Soudan. Bonne journée Brahim, merci de nous avoir appelé de N'Djamena. Vous restez avec nous, évidemment, à suivre la dernière édition d'Afrique Matin, et on revient tout de suite après pour parler ensemble de ce rapport remis hier au président Paul Biya concernant le passé colonial de la France au Cameroun. À tout de suite.